franceinter.fr.
Bonjour. Dans la nuit du 15 et 16 décembre, un cargo sous pavillon maltais s'est échoué sur cette belle et immense plage d'Erdeven, laissant s'échapper une partie de ses réservoirs, entraînant une pollution sur le littoral, mais également dans la rivière d'Etel, célèbre pour son poisson et ses coquillages, huîtres en particulier. L'origine de ce désastre, des armateurs voyous, mafieux, rendant leurs équipages en esclavage. Les plages et dunes d'Erdeven, à l'état sauvage protégé, sans boulevard, ni immeuble, ni casino, sont le terrain de jeu de familles populaires. Toute l'année, skysurfeurs, véliplanchistes, surfeurs se donnent rendez-vous. Le bateau devra être démonté sur place, ce qui va entraîner une destruction des dunes et une pollution supplémentaire, pour l'instant non quantifiable. Mais rassurons-nous, ce navire ne sera pas démonté comme les autres en Inde par des enfants de moins de 14 ans. C'était Jean-Yves de Plémel.
Ah Daniel, comme je suis contente d'avoir réentendu cette émission là sur ce village démocratique en Espagne, voilà. Alors, vous pouvez la passer autant de fois que vous voulez cette émission là, elle fait du bien, hein. Non mais il faut absolument l'entendre de temps en temps, hein, vraiment. Hein. Merci Daniel, ainsi qu'à toute votre équipe.
Alors Marina Leda, moi ça m'a passionné après l'émission, j'en voulais encore. Alors je suis allé sur YouTube pour voir des vidéos, bon je parle pas bien espagnol, mais au moins j'ai vu le paysage, j'ai vu le maire, c'était intéressant. Et quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le nombre de visualisations des vidéos. Alors je regarde, on est à peu près à 12 000 vues, 9 000 vues, pour une autre qui a été postée il y a 2 ans, 73 000 vues. Bon, je me dis, c'est peut-être un petit espoir, mais moi, ça me parle pas trop tous ces chiffres. Alors, je vais comparer avec une autre vidéo d'un sujet un peu plus connu, on va dire. Je vais taper DS. Par exemple, et là je vois que l'intégrale de la vidéosurveillance de DSK à l'hôtel a été vue 500 000 de fois et elle a été postée il y a une semaine. Bon, ben on n'est pas arrivé, hein. Allez, courage.
Je m'adresse à toutes les personnes et en particulier aux anciens appelés de la guerre d'Algérie qui sont contre le projet gouvernemental d'hommage officiel au général Bijar et au transfert de ses cendres aux Invalides. Je leur demande de consulter le site Non à Bijar aux Invalides et de signer la pétition en précisant leur qualité d'appeler en Algérie. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour les AMG. Eh bien, je suis révoltée parce que depuis 2 ans, je suis au chômage et en fin de droit. Je me retrouve au RSA. Je trouve du boulot et on me dit « Mais non, ma chère, vous n'êtes pas éligible au contrat. » Car il y a 2 sortes de RSA, il faut le savoir. Le RSA socle et le RSA activité. Si tu as le malheur d'être en RSA activité, tu ne peux pas bénéficier d'aucun contrat aidé. Et le plus fou dans l'histoire, c'est le 3e boulot qu'on me refuse. Dans ma région qui est très sinistrée, il n'y a que ce genre de contrat aidé. Alors je suis dégoûtée, révoltée, on m'empêche de travailler et on m'oblige à rester dans la misère. Bon Daniel et tous les EMG, j'espère que vous comprendrez bien ce message et que vous les diffuserez partout. Merci beaucoup, au revoir, merci à tous.
Le chaud lapin. Le curé est un chaud lapin. Transcendé par le son des cloches, pour faire rire le sacristain, il vide entièrement ses poches et dépose sur une chaise une boîte de préservatifs, la photo d'une Thaïlandaise massant le souverain pontife, une illustration par Dubout d'une chanson de salle de garde, un court extrait, pas le plus mou, de Justine du marquis de Sade, l'invitation pour le soir même à une partouze œcuménique chez l'archevêque d'Angoulême, qui n'est pas le dernier des lubriques, enfin, une carte de visite de la sémillante Mireille, le remerciant pour la cuite phénoménale de la veille. Sachant le mariage programmé de la fille de l'évêque de Honfleur, le sacristain, attentionné, met en garde son confesseur. Évitez de mettre mon père la main au cul de la mariée et de l'inviter au presbytère pour tirer un petit coup vite fait. Cher ami, répliqua le prêtre, votre conseil est malvenu. Je vous suggère de le mettre là où la morale ne va plus. Dieu ne créa pas l'érection pour taper sur des vieilles gamelles ou pour montrer la direction de Saint-Jacques de Compostelle. Alors baisons, baisons, baisons dans les couvents, dans les hospices, bonnes sœurs, curés, forniquons, que le vin remplisse nos calices. Et souvenons-nous que le pape, dans sa grande, grande sagesse, n'a trouvé que cette soupape pour venir à bout de son stress, n'a trouvé que cette soupape pour venir à bout de son stress. C'était Jean-Marcel Lourdingue, salut.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Et ce dernier message me donne l'occasion d'évoquer l'affaire des petits chanteurs à la gueule de bois. Vous vous souvenez peut-être, c'était le 18 juin dernier, et suite à la condamnation à Cherbourg d'un énergumène qui avait diffusé depuis sa fenêtre à plein tube la chanson de Brassens « Hécatombe », alors que deux flics passaient dans la rue, eh bien, il y avait une petite chorale qui s'était constituée à Paris devant la préfecture de police, histoire de reprendre en chœur la même chanson « Hécatombe » du grand Georges. Ils étaient là une petite cinquantaine, il y avait beaucoup plus de gardes mobiles que de choristes, mais ça a été suivi d'une petite bousculade et de deux arrestations et de deux gardes à vue. Les choses se sont quelque peu envenimées. Et là, récemment, il y a une semaine, il y avait audience devant la 17e chambre à Paris et relax, les deux dangereux subversifs ont été relaxés. Donc, bonne nouvelle et occasion de reprendre en cœur Hécatombe de Georges Brassens et de saluer la merveilleuse imbécilité des forces de l'ordre françaises. Voilà pour la rigolade, mais aujourd'hui on revient sur un drame terrible qui a marqué l'année 2011, c'est évidemment Fukushima. Un mois après, le 11 avril, nous étions dans une petite ville, non loin de Fukushima, qui s'appelle Hidate, une petite ville de 6000 habitants, et nous sommes arrivés au moment où le maire, qui avait réuni les habitants, était en train de leur annoncer qu'il fallait évacuer la ville pour échapper aux émissions radioactives qui gagnaient du terrain. Et sans pouvoir dire si on reviendrait un jour, s'il pourrait revenir un jour. On va revenir dans ce moment, si vous voulez, qui a marqué profondément cette année, qui a retourné totalement l'opinion japonaise par rapport au nucléaire, et pas seulement, évidemment, l'opinion japonaise. Aujourd'hui, on annonce que les choses seraient stabilisées à Fukushima, mais pour les observateurs, le doute subsiste devant ces annonces, dont les sources sont toujours opaques, et il s'agit bien sûr d'un sujet où les lobbies, on le sait bien en France, sont particulièrement virulents. Voilà notre sujet du jour, notre retour sur cet événement aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Nous avons notre président de la République qui vient nous rendre visite, c'est un grand honneur, en Ardèche ce matin, mais seulement c'est un petit peu comme l'Arlésienne, on ne sait pas où il va venir, c'est sans doute qu'il a peur d'être trop applaudi, il a peur du public, de la foule qui vienne l'acclamer, et c'est certainement pour ça qu'il veut passer incognito, juste avoir une caméra de TF1 lui suffira certainement, et puis quelques publics bien triés sur le volet, un bon casting nécessaire de jeunes de l'UMP, applaudissant avec de bonnes pancartes, et nous autres pauvres Ardéchois n'allons peut-être pas pouvoir le voir, parce que nous ne savons pas où il vient ni à quelle heure, c'est vraiment dommage. Bon, ben écoutez, super vos émissions, merci d'être là, au revoir et à bientôt.
Bonjour Daniel, merci d'avoir diffusé hier notre message d'information. Je viens aujourd'hui donner l'évolution de la situation. Le collectif d'usagers contribuables du secteur Gasseras, La Bastiole, Pouty informe les habitants de ces quartiers que nous attendons le rendez-vous pour l'entrevue avec Madame le maire de Montauban, en Tarn-et-Garonne. Nous rappelons que la pétition pour le maintien de notre ligne de bus de ville se trouve à l'épicerie du quartier. Nous remercions tous ceux qui se joignent à nous et signent la pétition. Merci à la base si j'y suis. Je vous dis à demain, si vous le voulez bien, pour la suite de la situation. Valérie, fidèle auditrice.
Salut aux AMG de Montauban. Aujourd'hui, mardi 20 décembre, nous avons rendez-vous pour notre café repère à la brasserie Le Régal au 108 Faubourg La Capelle à Montauban. Rendez-vous à 20h30 pour parler de nos médias, comment sensibiliser et interpeller les citoyens à des questions qui nous concernent tous, exemple la dette publique, face au pouvoir abrutissant de certains médias. Et Internet, est-ce peut-être une solution? Alors à ce soir, 20h30, au café Le Régal à Montauban. Salut!
Alors ça y est, moi aussi je suis comme n'importe quel japonais, j'ai un masque blanc sur le nez et sur la bouche. Pourquoi donc? Parce que là on est dans un périmètre de combien? 50 km par rapport à la centrale, et c'est quand même plus prudent de prendre quelques précautions. On est dans un paysage très beau, de fin d'hiver, magnifique. On a traversé des endroits où on fait des arbres fruitiers magnifiques. On fait des pommes, tout un tas de fruits superbes. C'est la spécialité du coin. Voilà des rizières là, dans des endroits très beaux, très très beaux, très très beaux. Sauf que cette région risque d'être considérée comme irradiée. On a demandé déjà aux paysans de ne pas semer. Et voilà, on est dans cette peur, cette terreur très particulière qui est on voit rien, on ne sent rien, on ne sait rien. Et c'est tout ça qui produit une peur qui vous gagne peu à peu et qui est celle des gens aussi du coin. Alors par ici, il n'y a plus un char, il n'y a plus personne. On commence à être dans un no man's land, 20 km autour de la centrale, les personnes qui vivaient là ont été évacuées. De 20 à 30 km autour de la centrale, on est autorisé à y rester, hein, c'est ça, à condition de se calfeutrer chez soi. Et au-delà de 30 km, on considère qu'il n'y a plus de problème. Ce qui n'est pas du tout l'analyse que fait une organisation comme Greenpeace, par exemple, qui considère que c'est 40 km. Et les autorités sanitaires des États-Unis, elles considèrent que c'est 80 km autour de la centrale. Ça, en soi, déjà, c'est tout à fait inquiétant. Et ça montre que la vie des gens est beaucoup moins importante que l'industrie nucléaire et que le lobby nucléaire. Donc voilà où on est, sur une route un peu plus importante. Une petite ville, on voit pas tellement... Il y a un très beau cimetière ici, mais on voit pas tellement âmes qui vivent.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, j'y suis avec Guy Ventil et Atsuko Ushioda, Fukushima, Hiroshima, dans un Japon qui doute.
Là, on va arriver à la mairie de Hidate.
Hidate, tu connais ce village, toi?
C'est un petit village de paysans, enfin, c'est un petit village agricole.
Et là, ils sont en colère?
Ils sont en colère parce qu'en fait... ils n'ont jamais été pour la construction de centrale et que c'est eux qui subissent la conséquence. Comme ils sont loin de centrale, ils n'ont pas touché l'argent de centrale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'argent de la centrale, ça veut dire que la centrale soutient et arrose toutes les communes alentour. Mais pas toutes. Et celle-ci n'a pas été arrosée, alors si je comprends bien. Parce qu'elle est en plein en dehors du périmètre.
Oui, oui, parce que nous sommes maintenant à 35 km.
Alors, eux vont subir les inconvénients, mais sans avoir eu auparavant les soutiens.
C'est ça, exactement.
Les médias sont partis, mais c'est pas fini. Les Japonais commencent très sérieusement à douter de la validité du nucléaire dans leur pays, du système politique et économique si étroitement emboîté qui domine leur pays. Et ça, on va le voir à travers cet endroit où nous venons d'arriver, qui s'appelle Hidate, donc très très joli petit village, 6000 habitants, touristique, vert, très fier des efforts qui ont été faits, de la tradition. Et on va entrer dans la mairie de cette petite région au moment même où le maire annonce à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont là, de paysans, d'agriculteurs, de petits entrepreneurs, qu'il va falloir évacuer, il va falloir quitter Hidate. C'est notre sujet du jour jusqu'à 16h, la basse vision.
L'explosion était attendue, France 3, elle a bien eu lieu et l'image est spectaculaire.
14 mars 2011.
Il est 11h01 ce matin au Japon, 3h01 en France. Le bâtiment qui enveloppe le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima est soufflé. 6 personnes ont été blessées. L'enceinte extérieure a été soufflée. Mais le cœur du réacteur numéro 3 est intact selon le gouvernement. Il exclut un nouveau Tchernobyl. Une explosion similaire s'était déjà produite samedi, détruisant le bâtiment du réacteur numéro 1. Les habitants sont invités à rester chez eux.
Nous avions demandé aux habitants d'évacuer les lieux dans un rayon de 20 km autour de la centrale.
Yukio Edano, porte-parole du gouvernement japonais.
Ceux qui ne l'ont pas fait doivent immédiatement regagner leurs habitations et rester à l'intérieur.
Plusieurs explosions en 3 jours et beaucoup d'interrogations sur la menace nucléaire. Le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima.
Là, on est un mois après. On est le 11 avril exactement. Et on est entré dans cette mairie au moment même où commence cette conférence de presse. Pas une conférence de presse d'ailleurs, il y a des journalistes qui sont là, mais c'est surtout un exposé du maire et des autorités de ce village adressé aux habitants et notamment à des paysans, des agriculteurs, des entrepreneurs. Les médias sont là, les caméras sont là, il y a une très grande tension et le maire prend la parole.
Et donc, à la 1h30, là maintenant, monsieur le maire du village, va faire une conférence pour les coopératives agricoles et des entrepreneurs du village. Ah, ça commence. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril.
Juste un mois après le tremblement de terre, notre village était épargné de tremblements de terre, mais l'accident de centrale a provoqué une évacuation aux alentours de 20 km. Mais la zone d'évacuation s'est agrandie petit à petit et nous voici maintenant. Le gouvernement a annoncé un nouveau plan d'évacuation, qui est évacuation planifiée. Nous avons appris que notre eau de robinet n'est plus potable. Ensuite, nous avons appris que notre terre était contaminée. Maintenant, nous sommes victimes d'une rumeur comme quoi tout ce qui parvient de notre village est contaminé.
C'est-à-dire que dans la salle, devant nous, il y a des paysans, il y a des agriculteurs de riz, de fruits, de légumes, de lait aussi. Et ces gens sont ruinés. Ils apprennent en ce moment leur ruine, que cette région est contaminée.
J'ai beaucoup de peine à vous annoncer, mais l'enjeu est énorme, l'enjeu économique et de santé, de l'avenir de nos enfants. En tant que maire du village, j'étais vraiment très tourmentée, car l'enjeu est énorme. Est-ce qu'on doit abandonner notre terre? Est-ce que les enfants sont exposés à la radiation? L'enjeu est énorme. Et là-dessus, très récemment, je crois que c'était hier, le gouvernement a annoncé l'évacuation planifiée, c'est un nouveau terme que je vais vous expliquer maintenant.
C'est impressionnant de voir que les caméras qui sont là, elles sont en train de détourner le regard du maire qui fait son discours pour saisir le visage des agriculteurs qui sont en train d'apprendre que leur monde s'effondre.
Parce que l'endroit où nous allons partir, nous allons nous installer maintenant, ne promet pas un métier, un terrain pour y habiter longtemps, pour trouver un nouveau travail. Je vais expliquer le plan d'évacuation.
Alors, il y a une carte qui est donné à chacun. Le bruit de feuilles qu'on entend, c'est le bruit de toutes ces cartes qui sont là. Et c'est pas compliqué. Ça fait comme une sorte de demi-cercle dont le centre est la centrale elle-même. Et là, on est en train d'expliquer qu'il va falloir aller au-delà. Il va falloir se déplacer. Parce que là, la radiation augmente et s'étend.
Et l'accident de centrale n'est pas encore terminé, n'est pas encore résolu. Il faut encore plusieurs mois pour que centrale finisse à dégager la radioactivité. Donc les zones d'évacuation planifiée, c'est la zone où le taux de radioactivité atteint 1 millisievert par an. Nous sommes dedans, donc on peut rester que pendant 8 heures par jour dans ce village.
Ici.
Ouais.
Désormais, on ne peut rester que 8 heures par jour dans ce village.
Ouais.
On assiste à la fin d'un village.
Oui.
à la fin d'une région, à la fin d'une civilisation, d'une région.
Et des scènes comme celle-là, il y a eu beaucoup d'autres au Japon, autour de la centrale de Fukushima, d'abord autour sur la ceinture des 20 km dont les habitants ont été évacués, puis des 30 km, et là on arrive à 40 km où voilà, l'eau est, du robinet n'est plus potable, la terre est contaminée, et puis il y a la réputation aussitôt du village qui est stigmatisé. Et non seulement les produits provenant de ce village, de cette région, mais les habitants eux-mêmes, ils se sentent, ils savent très bien ce qui va leur arriver, c'est qu'il faut être proscrit. Et c'est là qu'on comprend une vieille expression, pestiféré. Ça nous renvoie à ces vieilles expressions, comme un pestiféré. Et bien, non seulement ils perdent tout, mais ils se sentent devenus, là, en quelques instants, des pestiférés. Des questions arrivent.
Vous verrez moi si vous avez des questions.
Quelqu'un pose une question dans la salle.
Le gouvernement a dit un mois d'évacuation, mais c'est sûr que c'est un mois. Tant qu'on ne sait pas combien de temps on doit être loin du village, ce n'est pas la même préparation des déménagements, vous comprenez? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est plusieurs années? C'est pas la même chose. Et le maire répond, on ne sait pas. Nous sommes le village de 6000 habitants. Et c'est vrai qu'on n'a même pas proposition de l'endroit où on va être. Si je te déménage, j'aimerais être avec mes voisins, avec mon bourg entier. Et le maire répond, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Nous sommes dans la certitude totale.
Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de bras se lèvent à chaque fois. On demande si il y a des questions.
Je suis entrepreneur, j'ai une usine, j'ai mes employés. Tant que l'État ne promet pas de dédommager, je ne partirai pas.
Mais c'est quoi son choix? C'est de mourir ici. Refuser de partir, c'est accepter de se retrouver irradié.
Oui, mais accepter de partir, c'est de se trouver en chômage avec ses employés. Je sais, le maire, bon, je suis conscient. Je suis conscient. Je vais négocier. Vous allez voir, je vais négocier avec l'État pour indemnité.
Une question dans le public.
Je suis entrepreneur ici. Et un mois après, pourquoi vous dites maintenant qu'il faut partir? Et que partir, pour moi, c'est la fin de travail, fin d'entreprise.
C'est la fin d'entreprise, c'est ça? Ben oui, bien sûr. Et tous les autres, c'est là, ils sont dans la même situation.
Je suis conscient de vos tourments, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prendre une décision. Parce qu'on tient à la santé de nos enfants, et aussi nos travails, nos terres.
Une autre question.
Vous って村に通って仕事するっていう意味ですか、まあ、そういう
方法もありますけども、じゃ
あ notre personne qui a posé les questions, moi je suis pas agriculteur, je travaille dans un bureau, est-ce que je peux continuer, parce que ça n'a rien à voir, je suis pas exposé à l'extérieur en fait. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce que je peux rester? Je sais, monsieur le maire, que votre tâche n'est pas facile, mais il est dans l'arbre.
C'est cet homme qui tombe en larmes. Une nouvelle question est posée.
Oui, j'ai compris. Mais bon, un jour, on va revenir. Mais le nom de Hidati me l'a désormais connu par sa beauté, par son tourisme, par l'activité culturelle. Notre nom est sali pour toujours.
Hidati.
Maintenant, nous sommes connus par la radioactivité. Et comment on peut repartir à Hidaté après? La mère dit, je ne peux pas répondre.
C'est vrai que le nom de leur village est lié maintenant avec la radioactivité. Il y a beaucoup de questions, les gens ont envie de parler.
Vous avez dit que le gouvernement a ordonné, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et vous avez dit que vous n'avez pas encore répondu, mais si c'est l'ordre, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai répondu au gouvernement que de toute façon, on aimerait que le déplacement soit pas si loin, pas très loin, parce que nous allons laisser nos vaches. Il faut revenir pour les nourrir.
Mais ça, ce sera des vaches radioactives. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est du lait radioactif et que c'est des animaux radioactifs et que ces braves vaches japonaises produisent la mort. Attention.
Le gars continue à parler, il continue à poser sa question alors que les murs tremblent.
Les paysans lui font signe que c'est pas grave.
Assurez-vous, calmez-vous, ils ont l'habitude.
Il y a un monsieur âgé qui est en train de poser la question. Alors, quand le gouvernement nous dit de partir, ça veut dire que c'est dangereux pour la santé, j'imagine. Mais tous les jours, à la télé, j'entends dire que radioactivité par ici n'a pas d'influence sur la santé immédiate. Alors, je ne
immédiat,
pas.
Immédiat. C'est ça le grand mot. C'est ça la grande tricherie.
Oui, d'un côté, ils disent que c'est pas dangereux, d'autre côté, ils nous ordonnent d'évacuer.
Kaze no kite, kaze ni mukatte hashiru.
胃がの中に映る画面のような照らす光はなくぼんやり淡く出来すぎの姿に憧れもなくバカな話の中すれ違う夜冷えた手を握って息も白くて影は語らずにやがて
Tu me montres la carte?
Oui, oui, parce que jusqu'à là, c'était vraiment un périmètre de 20 km qui était interdit. Mais ils ont découvert que ce périmètre qui est tracé par compas n'est pas exact.
Et, ah oui, je comprends.
Et c'est pour ça, là. On avait les zones d'évacuation et. Et dedans, il y a notre village Idatemola. C'est ça.
D'accord, oui, c'est pas géométrique. Mmh. C'est pas géométrique, bien évidemment, puisqu'il y a des obstacles. Il y a toute une géographie.
Voilà, on est à Idate, je le rappelle, dans cette salle de la mairie de ce village, de 6000 habitants, une très jolie région. Et le maire est en train d'apprendre à des petits entrepreneurs, paysans, agriculteurs et à la population, en présence des médias du Japon, en train de leur apprendre qu'il va falloir évacuer ce village dans lequel ils habitent depuis plusieurs générations, parce que la terre est contaminée, parce que l'eau n'est plus potable, parce que le taux de radioactivité augmente et menace tout simplement la vie. Il est conseillé de ne pas résider dans ce village plus de 8 heures par jour, et ce temps va aller en se réduisant. Le lobby nucléaire japonais, on a beaucoup dit, oh, il y a des grandes différences culturelles entre les Japonais et nous, oh, sans doute. Mais enfin, il y a quelque chose qui nous rapproche tout à fait, c'est le lobby nucléaire. Le lobby nucléaire japonais fonctionne exactement comme le nôtre, avec la même emprise sur les pouvoirs publics, sur les élus, et puis cette imperturbable arrogance des experts. Et les amis japonais disent, oui, ça c'est le village, c'est-à-dire l'entreprise d'électricité, celle de cette région, c'est TEPCO, je le rappelle, voilà une partie du village. Une autre partie du village, c'est l'agence de sûreté nucléaire qui marche main dans la main avec TEPCO. Et puis, le fameux MESI, le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie japonais, qui est extrêmement puissant. On peut dire que c'est vraiment le pouvoir japonais. Le Japon est un géant économique et un nain politique. Et c'est ça le village. Et c'est ça l'arrogance. Et c'est ça le vrai pouvoir du Japon, et en l'occurrence le pouvoir nucléaire. Et c'est ce pouvoir-là dont les Japonais commencent à douter. Au moins ceux qui sont dans cette salle.
Nous sommes tous très très liés à notre terre depuis des générations. Et si on quitte ici, c'est la fin de travail, c'est la fin de notre vie. Et que les autres villages qui restent vont nous mépriser.
Une autre question ?
Vous répondez jamais, ils s'adressent aux mères. Ne répondez jamais, ni oui ni non, vous savez rien.
La colère monte un peu dans la salle. Petit à petit, de question en question, ça monte.
Vous êtes faible, devant l'État.
Et
je sais tout ça, votre vie, votre travail, je sais.
Le maire se lève.
C'était hier, le gouvernement a annoncé l'évacuation. Je ne sais pas comment vous exprimer. Simplement, je voulais vous tenir au courant avant que vous appreniez cette évacuation par un média. Oui, je ne sais pas si c'était bénéfique de vous avoir réunis aujourd'hui, mais sachez que notre cœur est avec vous.
Quand on en est au cœur, c'est mauvais. C'est que c'est cuit.
Simplement, je suis avec vous, nous sommes avec vous, ayez confiance que nous restons en contact.
Fin de la séance, on vient d'assister à un moment historique. Historique non seulement pour ces petits entrepreneurs qui sont là, petits et moyens entrepreneurs qui viennent d'apprendre qu'ils doivent évacuer, que le village, ce village de 6000 habitants, doit être évacué. Quelque chose qui doit vous toucher beaucoup, c'est la voix de notre traductrice, Atsuko. Parce que c'est une traductrice et c'est une amie, mais là, ce qui se passe là, ça s'entend, la touche très très profondément. La différence qui est entre Atsuko et nous, c'est qu'elle est japonaise, c'est que c'est son pays, c'est des régions qu'elle connaît et qu'elle aime. Et elle aussi découvre cette réalité, cette impalpable terreur qu'est celle de la radioactivité. Et le maire est parti, blême, impavide, refusant de répondre à toutes les questions. Et dans le hall de cette mairie, les habitants sont là, les petits paysans, les entrepreneurs sont là et répondent aux questions des journalistes. On a l'impression qu'on vient d'apprendre la mort de votre village.
Oui, ce sera la mort si le gouvernement affirme l'ordre de départ.
Mais comment vous pouvez résister ? C'est soit la mort du village si vous partez, mais c'est aussi la mort du village si vous restez. Si le village doit être irradié, ce n'est pas une solution non plus.
Mais vous entendez tous les jours dans les médias qu'il n'y a pas de problème de santé avec 5 millisieverts.
Alors pourquoi est-ce que le gouvernement veut que vous partiez ?
C'est pour ça ma question tout à l'heure. Vous avez entendu. C'est tous les jours, le département annonce le chiffre de cyber. Eh bien, avec ça, le média dit qu'il n'y a pas de danger.
Arigato. Arigato.
Incrédulité, résistance impossible. L'ordre d'évacuer vient du gouvernement, mais c'est un ordre que le gouvernement ne peut pas ne pas donner, bien évidemment. D'autres habitants répondent aux journalistes.
Est-ce que vous êtes prêt à déménager ? Vous êtes prêt à partir, vous ? Vous êtes prêt à être évacué ?
Non.
Pourquoi non ? Mais c'est dangereux de rester.
On me dit qu'il faut 30 ans pour que le cancer se provoque.
Moi j'ai 62
ans. Dans 30 ans, j'ai 92 ans et je serai déjà mort sans la radiation.
D'accord, donc vous allez rester. Mais vous allez avoir du travail. Si tout le monde part, vous aurez du travail.
Mon travail actuel, c'est tout près de centrale. Je aide les gens qui cherchent les corps des gens qui ont été emportés par tsunami. Et c'est là que je travaille. Avec une pelleteuse.
Avec une pelleteuse, vous récupérez les corps.
Je cherche le corps, oui.
Vous en avez trouvé beaucoup ?
Plusieurs dizaines de corps.
Parce que c'est des corps qui non seulement sont des victimes du tsunami, mais qui en plus sont des dépouilles irradiées.
J'ai une protection, j'ai des vêtements. C'est pas aussi impeccable que les gens qui travaillent dans la centrale, mais quelque chose qui couvre entièrement mon corps.
Là, c'est juste un mois après. Vous trouvez encore des corps un mois après ? Là, il nous montre la carte, monsieur.
Là, je travaille à peu près au-delà de 10 km de la centre. Et parce qu'à l'intérieur de 10 km, on ne peut pas entrer. Donc, dans le périmètre de 10 km, c'est sûr qu'il y a encore des corps.
Ah, oui.
On n'a pas d'accès encore.
Parce que c'est trop dangereux pour vous.
C'est ça. Là, nous travaillons juste là, entre 10 km et 20 km, là. Mais on n'a pas l'ordre de travail. D'accord.
Et tous les soirs, vous revenez ici, c'est-à-dire à 40 km, là où nous sommes.
C'est ça.
Vous pensez que votre village va survivre ?
Par rapport à ce que j'ai vu, des villages dévastés, tout près de centrale, c'est rien. C'est pas dangereux.
C'est pas dangereux, mais ça continue de fumer, ça risque.
Parce que les radiations, ça se voit pas. C'est pas grave, ça se voit pas.
C'est pas grave, ça se voit pas.
Il rigole. Hein.
Comment vous vous appelez ?
Watanabe.
Watanabe-san. Monsieur Watanabe.
J'ai voulu venir avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Éric Besson.
Nicolas Sarkozy.
En présence de votre président Henri Proglio.
3 mai 2011.
Après le drame de la centrale japonaise.
Gravelines.
Je voulais venir ici pour manifester la confiance de la France et des Français dans la filière nucléaire française. Je veux que les choses soient claires, face au manque de sang-froid de tant d'observateurs qui, ne connaissant rien au nucléaire, font des amalgames et disent des choses qui ne sont pas respectueuses du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens. En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je veux préciser les choses devant vous. Continuer dans le nucléaire, faire confiance au nucléaire, c'est continuer à investir dans le nucléaire.
半径20km から30km の区域。
C'est une situation extraordinaire. Parce que on a tous les employés municipaux qui sont en train de regarder la télé, où on annonce l'évacuation du village. Alors ils ont tous des uniformes et des masques blancs pour certains. Il y a des journalistes qui leur mettent des caméras sous le nez et des photographes qui essayent de photographier leur désarroi et leur stupeur. Mais la voix qu'on entend est en train d'annoncer pour eux la fin d'un monde. Là, on annonce précisément l'évacuation.
Liste des villages. Dit, je souligne bien que l'évacuation n'est pas immédiate, mais en pensant le risque d'accumulation de poussière nucléaire radioactive, il serait préférable et conseillé d'évacuer petit à petit, surtout pour des femmes enceintes, nourrissons, les gens fragiles sont fortement conseillés de partir. Dès à présent, je conseille aux habitants de ces villages que je viens de lister de préparer le départ. Mais je veux répéter, ce ne serait pas immédiatement. Je suis conscient des dégâts économiques. Mais pour la mesure de sécurité, la santé, je le répète, de préparer pour une évacuation. Surtout éviter la panique.
C'est ça, leur souci, c'est d'éviter la panique et de leur dire que c'est pas, on va faire ça petit à petit, etc.
Oui.
Ils donnent aucun ordre de grandeur de la radioactivité dans la
non.
coin.
Non.
Thank you.
C'était Il faut fuir Hidate, nouvelle version d'un épisode de la série Fukushima Hiroshima dans un Japon qui doute. Un reportage de Guy Vangtil et Daniel Mermet, diffusé pour la première fois le 5 mai dernier. Merci à Tsuko Ushioda pour la traduction. Merci aussi à Miguel Cantana et Colin Kobayashi. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe et Guillaume Roux, réalisation Franck Aderer, assisté de Grégory Salomonovitch. Vous pouvez dès maintenant laisser vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.